Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 février 2022 et donc on va continuer notre aventure dans les marchés boursiers internationaux. Aventure parce que c'est vrai qu'on a vécu une semaine qui était assez particulière, spectaculaire encore une fois, et c'est le cas pratiquement depuis le début de cette année 2022. On s'est jamais vraiment reposé en se disant « ouais, c'est tranquille cette fois, là ça va bien se passer ». Non, on est encore à fond, à fond, à fond. On se fait balader dans tous les sens. On l'a vu sur Facebook, on l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur Snap. On a vu aussi surtout que on est capable de nous faire déglinguer le marché durant l'après-midi et puis de faire paniquer les Européens et d'avoir un renversement de tendance de nouveau en fin de séance. Ça continue, ça n'est pas terminé. Donc oui, vendredi dernier, nous avons eu les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi. Donc je vous l'avais dit, hein, donc c'était une des grosses questions de cette fin de semaine. Et on va continuer avec cette même thématique que l'on a depuis des semaines. Quid de l'inflation? Mais que va devenir l'inflation et comment va se comporter la Fed par rapport à ça? Alors on a de nouveau eu des chiffres assez spectaculaire, puisqu'encore une fois, on a pulvérisé les attentes, on en arrive gentiment au stade que, même de faire de l'ironie sur les prédictions des analystes, ça devient même plus drôle, puisque de toute manière, à chaque fois, ils se vautrent, mais avant, ils se vautraient un tout petit peu, mais là, c'est carrément à l'opposé de ce qu'on attendait. On va pas même pas citer les chiffres d'Amazon la semaine dernière, où on attendait 3$ et des poussières de bénéfices, les mecs, ils sortent à 27, donc on est complètement à côté de la plaque, et là, au niveau des chiffres de l'emploi, c'était un petit peu pareil, puisque globalement, eh bien, on attendait plus ou moins entre 130 et 150 000 selon les analystes, selon les économistes, et c'est sorti à 467 000 nouvelles créations d'emplois. Le taux de chômage en dessous de 4% aux États-Unis, c'est le plein emploi, quasiment ça cartonne. Tout va bien. Et alors, du coup, on s'est fait quoi? On s'est fait un flip de nouveau en disant « Oh mon Dieu, mais alors si tout le monde a du travail, mais c'est monstrueusement inflationniste !» Alors oui, effectivement, c'est monstrueusement inflationniste. Enfin, c'est inflationniste. C'est une donnée qui peut nous faire paniquer. Il y a une autre donnée qu'il faut retenir parce qu'on n'en parle pas souvent, mais à chaque fois qu'on publie les chiffres de l'emploi, eh bien, on rappelle aussi les derniers chiffres de l'emploi. Et puis souvent, il y a deux, trois petites modifications parce qu'en fait, le département du travail américain, ils étaient pas complètement au clair quand ils ont rempli le spreadsheet Excel il y a un mois en arrière. Donc du coup, ils corrigent un petit peu les chiffres d'avant pour bien les aligner. Alors là aussi, c'était pas mal la correction parce qu'ils avaient annoncé déjà le mois dernier 221 000 créations d'emplois et ils ont corrigé à 510 000. Donc les mecs, ils se sont gourés de 300 000. Ils vous ont donné un chiffre officiel du département du travail la semaine, le mois dernier. Et ce chiffre-là, il était faux, mais pas un tout petit peu. 300 000 personnes. Bah, c'est rien, 300 000 personnes. Je veux dire, on les met dans une deux chevaux, là, garés au bord de la route, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, ils se sont vautrés magistralement. Les marchés se rendent compte qu'ils étaient complètement faux par rapport à ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va assez rapidement développer la réflexion en se disant, ouais, mais alors, du coup, c'est hyper inflationniste. Oui, c'est hyper inflationniste parce que s'il y a tant de monde qui a récupéré un boulot, entre le mois de décembre et le mois de janvier, si on prend ces deux erreurs, eh bien, il y a 600 000 jobs de plus que prévu qui se sont créés. Donc, oui, c'est inflationniste. C'est des chiffres que la Fed, en théorie, n'avait pas sous la main pour faire leurs interprétations. Donc, on se dit, nous, on est intelligents, on voit toujours un peu plus loin. On se dit, oui, mais alors si tout, à tout hasard, la Fed, eh bien, ils se rendaient compte de tout ça et ils changeaient leur esprit puis que c'était plus 0,5 en mars ou 0,25 ou 0,5, plutôt 0,5 ou 0,7 pour pousser encore un petit peu, pour freiner encore un peu plus l'inflation. Bref, on est en train d'accumuler des données qui sont inflationnistes aujourd'hui. La question, c'est qu'effectivement, la Fed va monter les taux. Il est peu probable qu'elle monte les taux de 1% directement fin mars pour stopper cette inflation. Donc du coup, on est en train d'anticiper, de cumuler. Peut-être qu'on va avoir un pic de l'inflation d'ici 15 jours et puis qu'on va avoir des vrais chiffres qui vont montrer qu'elle se calme. Mais pour l'instant, comme on est en train de voir que ça monte, ça monte, ça monte et que ça s'arrête pas, eh bien, on est en train de se dire avec tout ça, à un moment donné, la Fed, ils vont paniquer et ils vont nous faire un truc monstrueux. Et peut-être que même, ils vont nous faire un truc monstrueux et puis que ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que peut-être que c'est trop tard. Donc du coup, on est en train de se créer cette angoisse permanente. Mais l'avantage, c'est que ça dure pas très longtemps puisque vendredi, ça a duré de nouveau le temps que les Européens y rentrent à la maison. Donc oui, vendredi, il aura suffi que les Européens rentrent à la maison, encore une fois, pour que le marché américain reparte à la hausse et termine dans le vert et finisse la semaine relativement moins mal que prévu. Alors évidemment, on a été tiré par des boîtes comme Amazon qui terminait à plus de 14% ou 13% de hausse sur la séance, comme Snapchat qui a repris 58 ou 59% durant la séance. On savait déjà parce que ça traitait après clôture et avant ouverture à ces niveaux-là. Donc impressionnant de ces deux côtés. Snapchat, il faut quand même signaler au passage que tout le monde est en train de revenir sur la valorisation de la boîte et déjà là maintenant c'est super cher, et puis tout le monde s'excite en disant c'est fantastique parce qu'ils ont pulvérisé les attentes, ils ont fait nettement mieux que le marché. Alors il faut juste remettre l'église au milieu du village. D'abord, on attendait 8 cents de perte, ils annoncent 1 cents de gain, c'est pas non plus la mine d'or, hein, je veux dire, ils ont pas non plus trouvé un filon sous un puits de pétrole ou un filon d'or sous la boîte, sous le headquarters de Snapchat. Donc il faut quand même relativiser ces chiffres-là. La valorisation est déjà considérée comme élevée, et puis il faut quand même rappeler que sur les 12 derniers mois, le titre est quand même en baisse de 30%, donc c'est pas non plus... malgré le rebond de 60%, on est bien d'accord, ils sont quand même en baisse de 30%. Donc, il faut relativiser tout ça, mais néanmoins, le marché a terminé relativement bien à cause de ce type d'annonce, et donc on va continuer encore cette semaine avec les chiffres trimestriels. Il y aura aussi du monde, il y aura plus les big names qui seront là, mais il y aura quand même pas mal de monde qui vont publier cette semaine, comme vous le voyez sur... le graphique qui s'affiche sur votre écran à l'instant. Donc comme d'habitude, on commence la semaine avec pas grand chose en termes de chiffres très très importants, mais c'est le mardi que ça va commencer à se chauffer, puisqu'on va avoir Pfizer, on va avoir BP, on va avoir Peloton entre autres qui a beaucoup souffert mais qui pourrait encore beaucoup souffrir, donc à surveiller attentivement. On aura Harley Davidson également, et puis mercredi on aura Uber, Walt Disney, CVS, Teva, Yum, Brands, Mattel, donc pas mal de monde à surveiller. On aura également jeudi Twitter, il faudra faire très attention justement à cause de toutes ces histoires entre Facebook, Snapchat et consorts. À noter Coca-Cola aussi qui publiera jeudi, et Pepsi-Cola, donc voilà du côté boisson, et puis Expedia encore en fin de semaine avec Under Armour vendredi. Mais en gros, voilà, il y a encore pas mal de chiffres. Vous voyez que c'est un petit peu moins sexy que la semaine dernière, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est entre autres, je pense qu'il sera très regardé, c'est les résultats de Pfizer dès demain, puisque Pfizer en fait sera vraiment sous les feux de la rampe après la relative performance de ces derniers mois à cause du vaccin. Aujourd'hui, on est dans une transition au niveau du Covid, puisqu'on parle de plus en plus de lever les mesures, blablabla, tout le monde est en train de passer à autre chose. On a l'impression que l'après-Covid est en train d'arriver gentiment, donc beaucoup de gens sont en train de se dire « Oui, mais est-ce que ce sera pareil et aussi facile pour Pfizer l'année prochaine ?» Sachant que les vaccins, bah, de plus en plus de gens sont vaccinés. Alors, est-ce qu'il faut parler de 4e, 5e, 6e ou 7e dose ? Je sais pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, il y a pas mal d'interrogations qui vont se poser sur les pharma, mais surtout sur des boîtes comme Pfizer et comme Moderna. Donc, on verra leurs résultats cette semaine pour voir un petit peu comment c'est en réalité. Mais là encore, attention, hein, souvenez-vous qu'on reste dans cette période où... toute déception ou toute mauvaise interprétation pourra donner lieu à une volatilité extrême. Méfiance donc de ce côté-là. Question du matin aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me dit « Avez-vous un avis sur les barrières reverse convertibles ou peu importe comment on veut bien les appeler Est-on un investisseur plutôt prudent et long terme sur les grosses actions comme Zurich, Roche, Nestlé ? J'ai l'impression que ce produit me permettra d'avoir un bon rendement sans prendre trop de risques en fonction de la barrière et des actions choisies bien sûr. » Merci pour votre retour. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir sur les produits structurés type reverse convertible, c'est effectivement, c'est qu'est-ce que vous mettez dedans et où est-ce que vous mettez la barrière et quel est le coupon que vous chopez derrière. C'est vrai qu'on va faire des reverse convertibles sur des boîtes comme Roche, Novartis ou Zurich. Alors, la problématique, c'est que ça va pas vous apporter des rendements de folie, sachant qu'en fait, pour faire des reverse convertibles, faut faire des ventes de poudre. Donc, comme la vol sur ces boîtes-là sont relativement faibles, eh bien, du coup, vous avez forcément des fois des coupons qui sont relativement bas, voilà, tout simplement. Néanmoins, ça vous permet d'avoir une relative protection. C'est clair que si vous avez une barrière à 40% sur une Novartis, sur une Roche ou sur une Zurich, je pense que la probabilité d'atteindre ces niveaux-là, elle est relativement faible, à moins d'avoir une crise des subprimes dès la semaine prochaine. Mais globalement, je pense que c'est une bonne solution pour quelqu'un qui est relativement défensif sur ce type de valeur et qui s'attend pas à avoir des coupons de folie. C'est vrai que dans l'utilisation des reverse convertibles ces dernières années, les gens cherchent du coupon. Donc forcément, on va aller mettre des barrières à 40 ou 50%. On va aller taper des titres hyper volatiles pour avoir des gros coupons. Par contre, le risque est effectivement de toucher une barrière à 50%. 5%, il est relativement élevé, mais par contre les coupons sont à 10, 12, 13%, ça marche plutôt pas mal de ce côté-là. Donc oui, c'est une bonne opportunité, je pense qu'il faut faire très attention au contenu et aux détails structurels du produit, parce que c'est un produit structuré c'est un contrat, donc avant d'acheter un produit structuré, vous devez lire le contrat complet et comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Des fois on vous met des formules mathématiques en couverture, il faut déjà essayer de les comprendre, et où est-ce que ça vous mène, et qu'est-ce qui se passe dans différents scénarios. 1, j'ai raison, 2, j'ai tort, 3, j'ai beaucoup tort, et voir un petit peu ce que ça donne sur la performance de votre produit. Mais autrement, c'est vrai que dans le pire des cas, vous vous retrouvez avec une action comme Roche 20 ou 30% plus bas, ça me paraît pas complètement ridicule comme investissement long terme, mais voilà, c'est vrai qu'on a vécu à l'époque de la crise des subprimes, des reverse convertibles, où dedans il y avait des boîtes comme Nokia, au hasard, Nokia qui à l'époque valait 50 €, et puis on disait, oh, mais de toute façon Nokia, si on met une barrière à moins 30%, Nokia elle ira jamais en dessous de 30 €, jamais. Oui, bah en fait, si, elle peut y aller, puis des fois, elle peut même rester super longtemps, en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment faire un petit peu attention à ça, puis essayer de se projeter. Alors c'est vrai que, historiquement parlant, quand on regarde un petit peu la volatilité de ce type de titre, même dans des environnements extrêmement compliqués, eh bien, ça se passe quand même relativement bien. Donc oui, ça me paraît relativement intéressant. Alors après, il faut juste un petit peu regarder ce que vous rapporte ce coupon par rapport à ce que potentiellement pourrait vous rapporter les dividendes de ces actions que vous pourriez acheter simplement en direct. Donc il faut juste regarder un petit peu ça, mais ça me paraît complètement raisonnable. Faire du reverse convertible sans aller traquer absolument le coupon, complètement délirant, parce que vous faites un reverse convertible sur 3 boîtes qui sont en faillite, ça me paraît intéressant. Parce que là, vous prenez pas des boîtes qui sont en faillite, justement, vous prenez de la qualité. Mais par contre, vous faites pas de la chasse au coupon, ce qui est plutôt correct pour un investisseur long terme, comme vous l'expliquez. Alors par contre, vous deviendrez pas très riche à partir de demain, seulement il faudra attendre un peu plus de temps. Et puis, autre question ce matin, j'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que tu vends toutes tes actions pétrolières pour acheter du métaverse à la place pour jouer le rebond? Je pense qu'il faut pas le trancher comme ça, mais je pense effectivement qu'il faut se poser des questions sur métaverse. On peut peut-être faire vendre une partie de l'exposition pétrolière pour aller se positionner sur le métaverse. Sur la question du pétrole, pour l'instant, bah, on est à plus de 90 $ ce matin, le 90 $ le baril. Donc la crainte pour moi, c'est toujours qu'on aille taper ces 100 $. On verra quand on tapera les 100 $ ce qui va se passer dans les marchés et comment les gens vont percevoir ce risque inflationniste et ce risque récessionniste qu'on va nous mentionner forcément à ce moment-là. Mais donc il y a toujours une crainte. Pour l'instant, les pétrolières vont très bien, elles reviennent de très loin parce que finalement, pendant longtemps, plus personne n'en a voulu parce que c'était pas green et qu'aujourd'hui, on se dit que green, c'est bien, mais enfin, si ça rapporte quand même du 50% par année, on s'en fout si c'est un petit peu moins green. Donc il y a eu ce retour d'intérêt sur les pétrolières. Aujourd'hui, elles sont très élevées. Ça paye encore des coupons énormes, on l'a vu encore sur Exxon la semaine dernière. Moi, je pense que par rapport à ça, je voudrais bien réduire, si j'ai un portefeuille pétrolier, avec beaucoup de pétrolières, je réduirais une partie de mon portefeuille pour essayer de jouer des thématiques comme Metaverse. La problématique de Facebook Metaverse, j'en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière, c'est qu'en fait, ils ont des au niveau du chiffre d'affaires, par exemple, ça cartonne. Je pense que le temps qu'ils se remettent à niveau avec iOS, qu'ils rechangent leur système, leurs paramètres, si on veut bien, qu'ils modifient tout ça, plus que Metaverse se développe, tout d'un coup, il risque d'y avoir un rattrapage assez spectaculaire. Donc c'est clair qu'à ces niveaux-là, ça paraît relativement tentant de remettre les pieds dedans. Alors je mettrai gentiment les pieds dedans, parce que peut-être qu'effectivement, le moment où Facebook Metaverse reviendra en odeur de sainteté, eh bien, il y aura de l'intérêt. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, Facebook, c'est has-been, plus personne n'en veut. Je suis entièrement d'accord, la plateforme telle qu'elle est, à mon avis, elle est pas extraordinaire, et puis ça touche seulement une certaine catégorie de personnes, puisque, on va dire, les plus vieux, parce que les plus jeunes vont pas sur ce genre de plateforme. Par contre, ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est quand même que Facebook, non seulement ils ont quand même beaucoup de cash, ils peuvent faire des acquisitions pour aller acheter d'autres réseaux sociaux potentiellement, ils font face à une certaine concurrence, c'est vrai, maintenant il faudra voir un peu comment ils vont s'en sortir, et puis je ne vendrai pas trop tôt la peau du Zuckerberg avant de l'avoir tué, parce qu'il peut y avoir encore pas mal de sorties, de surprises au niveau de Facebook Metaverse ces prochains temps. Moi je me méfie avec cette action, parce que pour être très franc, quand ils sont venus en IPO à l'époque, j'étais un des premiers à dire que c'était de l'adobe, et puis que c'était vraiment nul. Mais bon, force est de constater qu'au niveau publicité, ça cartonne quand même. Au niveau chiffre d'affaires, comme je le disais la semaine dernière, c'est 40 trimestres de suite avec une croissance du chiffre d'affaires à plus de 10%. Il faut pas non plus cracher trop vite dans la soupe. Donc ça pourrait être relativement intéressant, mais je mets beaucoup de conditionnels parce que trouver le timing exact pour vendre les pétrolières au plus haut et acheter Facebook Metaverse au plus bas, ça va être un sacré challenge. Voilà, c'est tout pour ce lundi matin qui commence en pente douce. Déjà avec des futurs en baisse ce matin, 0,4% de baisse sur les futurs. Mais par contre, un rebond finalement de la crypto, puisque tout le monde disait qu'on était en train d'échouer sur les résistances du Bitcoin et on a cassé. On est repassé en dessus, on est à 42 000 sur le Bitcoin. Que se passe-t-il? Va-t-on enfin reparler de la crypto, de cette crypto-là, du Bitcoin en particulier, mais aussi des autres qui s'étaient un petit peu calmés ces derniers temps? Surprise, on en reparlera certainement ces prochains jours. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain matin au même endroit et à la même heure. Bye bye.